tous les jours à 10h pendant le confinement. Journal de la peste par Aurélie Ruby.
D'une part, la ville fermée et le port interdit, les bains n'étaient plus possibles. Et d'autre part, il se trouvait dans un état d'esprit bien particulier, où, sans avoir admis au fond d'eux-mêmes les événements surprenants qui les frappaient, ils sentaient bien, évidemment, que quelque chose avait changé. Beaucoup, cependant, espéraient toujours que l'épidémie allait s'arrêter et qu'ils seraient épargnés avec leur famille. En conséquence, ils ne se sentaient encore obligés à rien. La peste n'était pour eux qu'une visiteuse désagréable qui devait partir un jour puisqu'elle était venue. Effrayés, mais non pas désespérés, le moment n'était pas encore arrivé où la peste leur apparaîtrait comme la forme même de leur vie et où ils oublieraient l'existence que, jusqu'à elle, ils avaient pu mener. En somme, ils étaient dans l'attente. De son côté, Tarou se mit au travail et réunit une première équipe qui devait être suivie de beaucoup d'autres. L'intention du narrateur n'est cependant pas de donner aux formations sanitaires plus d'importance qu'elles n'en eurent. À sa place, il est vrai que beaucoup de nos concitoyens céderaient aujourd'hui à la tentation d'en exagérer le rôle. Mais le narrateur est plutôt tenté de croire qu'en donnant trop d'importance aux belles actions, on rend finalement un hommage indirect et puissant au mal. Car on laisse supposer alors que les belles actions n'ont tant de prix que parce qu'elles sont rares, et que la méchanceté et l'indifférence sont des moteurs bien plus fréquents dans les actions des hommes, et c'est là une idée que le narrateur ne partage pas. Le mal qui est dans le monde vient presque toujours de l'ignorance. Et la bonne volonté peut faire autant de dégâts que la méchanceté si elle n'est pas éclairée. Les hommes sont plutôt bons que mauvais, et en vérité ce n'est pas la question. Mais ils ignorent plus ou moins, et c'est ce qu'on appelle vertu ou vice. Le vice le plus désespérant étant celui de l'ignorance qui croit tout savoir et qui s'autorise alors à tuer. L'âme du meurtrier est aveugle, et il n'y a pas de vraie bonté ni de bel amour sans toute la clairvoyance possible. C'est pourquoi nos formations sanitaires, qui se réalisèrent grâce à Tarou, doivent être jugées avec une satisfaction objective. C'est pourquoi le narrateur ne se fera pas le chantre trop éloquent de la volonté et d'un héroïsme auquel il n'attache qu'une importance raisonnable. Mais il continuera d'être l'historien des cœurs déchirés et exigeants que la peste fit alors à tous nos concitoyens. Ceux qui se dévouèrent aux formations sanitaires n'eurent pas si grand mérite à le faire, en effet, car ils savaient que c'était la seule chose à faire, et c'est de ne pas s'y décider qui alors eût été incroyable. Ces formations aidèrent nos concitoyens à entrer plus avant dans la peste et les persuadèrent en partie que, puisque la maladie était là, il fallait faire ce qu'il fallait pour lutter contre elle. Parce que la peste devenait ainsi le devoir de quelques-uns, elle parut réellement pour ce qu'elle était, c'est-à-dire l'affaire de tous. Cela est bien. Mais on ne félicite pas un instituteur d'enseigner que 2 et 2 font 4. On le félicitera peut-être d'avoir choisi ce beau métier. Disons donc qu'il était louable que Tarou et d'autres eussent choisi de démontrer que 2 et 2 faisaient 4 plutôt que le contraire. Mais disons aussi que cette bonne volonté leur était commune avec l'instituteur, avec tous ceux qui ont le même cœur que l'instituteur, et qui, pour l'honneur de l'homme, sont plus nombreux qu'on ne pense. C'est du moins la conviction du narrateur. Celui-ci aperçoit très bien d'ailleurs l'objection qu'on pourrait lui faire, et qui est que ces hommes risquaient leur vie. Mais il vient toujours une heure dans l'histoire où celui qui ose dire que 2 et 2 font 4 est puni de mort. L'instituteur le sait bien. Et la question n'est pas de savoir quelle est la récompense ou la punition qui attend ce raisonnement. La question est de savoir si 2 et 2, oui ou non, font 4. pour ceux de nos concitoyens qui risquaient alors leur vie. Ils avaient à décider si oui ou non ils étaient dans la peste et si oui ou non il fallait lutter contre elle. Beaucoup de nouveaux moralistes dans notre ville allaient alors disant que rien ne servait à rien et qu'il fallait se mettre à genoux. Et Tarroux et Rieux et leurs amis pouvaient répondre ceci ou cela, mais la conclusion était toujours ce qu'ils savaient, il fallait lutter de telle ou telle façon et ne pas se mettre à genoux. Toute la question était d'empêcher le plus d'hommes possible de mourir et de connaître la séparation définitive. Il n'y avait pour cela qu'un seul moyen qui était de combattre la peste. Cette vérité n'était pas admirable, elle n'était que conséquente. C'est pourquoi il était naturel que le vieux Castel mit toute sa confiance et son énergie à fabriquer des sérums sur place avec du matériel de fortune. Rieux et lui espéraient qu'un sérum fabriqué avec les cultures du microbe même qui infestait la ville aurait plus d'efficacité que les sérums venus de l'extérieur, puisque le microbe différait légèrement du bacille de la peste tel qu'il avait été classiquement défini. Castel espérait voir son premier sérum assez rapidement. C'est pourquoi encore il était naturel que Grand, qui n'avait rien d'un héros, assura maintenant une sorte de secrétariat des formations sanitaires. Une partie des équipes formées par Tarroux se consacrait en effet à un travail d'assistance préventive dans les quartiers surpeuplés. On essayait d'y introduire l'hygiène nécessaire, on faisait le compte des greniers et des caves que la désinfection n'avait pas visitées. Une autre partie des équipes secondait les médecins dans les visites à domicile, assurait le transport des pestiférés et même, par la suite, en l'absence de personnel spécialisé, conduisit les voitures des malades et des morts. Tout ceci exigeait un travail d'enregistrement et de statistiques que Grand avait accepté de faire. De ce point de vue, et plus que Rieux ou Tarroux, le narrateur estime que Grand était le représentant réel de cette vertu tranquille qui animait les formations sanitaires. Il avait dit oui sans hésitation, avec la bonne volonté qui était la sienne. Il avait seulement demandé à se rendre utile dans de petits travaux, il était trop vieux pour le reste. De 18h à 20h, il pouvait donner son temps. Et comme Rieux le remerciait avec chaleur, il s'en étonnait. « Ce n'est pas le plus difficile, hein. Il y a la peste, il faut bien se défendre, c'est clair. Ah, si tout était plus simple. » Et il revenait à sa phrase. Quelquefois, le soir, quand le travail des fiches était terminé, Rieux parlait avec Grand. Ils avaient fini par mêler Tarroux à leur conversation, et Grand se confiait avec un plaisir de plus en plus évident à ses deux compagnons. S'il est vrai que les hommes tiennent à se proposer des exemples et des modèles qu'ils appellent héros, et s'il faut absolument qu'il y en ait dans cette histoire, le narrateur propose justement ce héros insignifiant et effacé qui n'avait pour lui qu'un peu de bonté au cœur et un idéal apparemment ridicule. Cela donnera à la vérité ce qui lui revient, à l'addition de 2 et 2 son total de 4, et à l'héroïsme la place secondaire qui doit être la sienne, juste après, et jamais avant, l'exigence généreuse du bonheur. Cela donnera aussi à cette chronique son caractère, qui doit être celui d'une relation faite avec de bons sentiments, c'est-à-dire des sentiments qui ne sont ni ostensiblement mauvais, ni exaltants à la vilaine façon d'un spectacle. C'était du moins l'opinion du docteur Rieux lorsqu'il lisait dans les journaux ou écoutait la radio les appels, les encouragements que le monde extérieur faisait parvenir à la ville empestée. En même temps que les secours envoyés par air et par route tous les soirs, sur les ondes ou dans la presse, des commentaires apitoyés ou admiratifs s'abattaient sur la cité désormais solitaire. Et chaque fois, le ton d'épopée ou le discours de prix impatientait le docteur. Certes, il savait que cette sollicitude n'était pas feinte, mais elle ne pouvait s'exprimer que dans le langage conventionnel par lequel les hommes essaient d'exprimer ce qui les lie à l'humanité. Et ce langage ne pouvait s'appliquer aux petits efforts quotidiens de Grand, par exemple. Ne pouvant rendre compte de ce que signifiait Grand, au milieu de la peste. Extrait de La Peste de Camus.
Journal de la Peste par Aurélie Rubis.